Bonsoir François.
Bonsoir.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Oui, juste à la radio. Voilà. Eh bien, voilà, j'ai l'impression que ce soir, vous faites une consultation d'alcoologue. Parce que moi aussi, j'ai un témoignage par rapport à ça.
Alors, je vais vous rassurer, vraiment, François, je vais vous rassurer sur un point, c'est que tous les échanges, toutes les expériences sont toujours bonnes à prendre. Et voilà, il n'y a pas de... Rassurez-vous, tout va bien.
Oui, non, mais malheureusement, je sais bien qu'il y a un autre regard qu'il y a 30 ans sur l'alcool, et que maintenant, on nous considère bien comme des malades. Et simplement, moi je voulais témoigner par rapport au premier témoignage là, du marin pêcheur. Moi, j'ai pas du tout un alcool violent. Je suis plutôt autodestructeur d'ailleurs. Quoi, je me blesse pas, je me mutile pas, mais bon, en fin de compte, j'ai préparé un petit peu ma chronologie là. Moi, j'ai 66 ans.
Oui.
Et pendant 20 ans, j'ai vécu en famille dans un alcool familial, c'est-à-dire que tout le monde consommait de l'alcool. Mmh. Et à partir, je me souviens, j'ai une petite sœur qui est décédée, qui avait 13 mois de différence avec moi, qui est décédée d'un cancer du pancréas. D'ailleurs, j'ai parlé tout le temps, j'en parlais aux alcoologues en disant oh, « mais pourtant elle ne buvait pas, pourtant elle ne buvait pas ». Jusqu'au jour où quelqu'un m'a stoppé, et un docteur, en post-cure, en disant « mais pancréas, cancer du pancréas, c'est avant tout le tabac ».
Et oui.
Et c'est pas du tout de l'alcool, c'est pas parce que le pancréas est collé à au foie que ça a quelque chose à voir. Alors ça, déjà, c'est une première alerte, parce qu'on est proche du 1er novembre, et qu'il faudrait peut-être faire attention à ça. Parce que je peux vous dire qu'un cancer du pancréas, c'est foudroyant, mais c'est très douloureux. Et surtout douloureux à vivre pour une famille.
Oui.
Alors moi, pour en revenir à l'alcool familial, pendant 20 ans, j'ai vu des gens consommer autour de moi. Mm-hmm. À partir de notre communion, ma petite sœur et moi, parce qu'on avait 13 mois d'écart, eh bien, on a eu le droit tous les dimanches à un verre de Porto, puis une cigarette. C'était normal. On était devenus des grands.
Ah oui.
Et... Comme un passage. Comme en Afrique, on fait un tatouage ou une scarification ou une danse ou quelque chose comme ça. Ben, nous, on était rentrés chez les grands.
C'est quel âge, François ?
La communion sur la neige, ça fait 12 ans. Donc, pour moi, c'était en 66.
Donc à l'âge de 12 ans, on vous a donné votre première cigarette ?
Ma première cigarette, mais j'en fumais déjà avant. Moi, je fumais depuis la primaire. Il y avait à l'époque ce qui s'appelait des P4, Parisienne 4. Ça se vendait par 4. C'était. Il y avait les Gauloises. Alors, en dessous, il y avait troupe qu'on donnait aux militaires. Et le reste de la troupe, on la mettait dans les P4. C'est-à-dire que vous ne teniez pas votre cigarette horizontalement. Hop, le tabac, il glissait. Il n'y avait plus de tabac dans la cigarette.
Wow.
Mais on achetait un paquet de P4 comme ça à deux ou trois gamins. Et puis, on était en CM1, CM2. Puis, on fumait, on avait une boîte d'allumettes. On fumait la cigarette pour se cacher. Parce que c'est vrai que là, à cette époque-là, on se serait fait gronder par n'importe qui dans la rue. Hein. N'importe quel adulte intervenait.
Oui. Oh, mais je pense que c'est de nos jours aussi, il y a un côté presque...
Non, je peux vous dire que non. Ouais. Moi, je suis enseignant spécialisé à la retraite.
Ouais.
Et je me suis fait envoyer sur les roses, même par des adultes, quand j'ai vu des gamins acheter les canettes énergétiques, là. Et oui. Dans un magasin, mmh. Ils achetaient un flash de rhum avec, à midi. Et comme ils ne pouvaient pas l'acheter, eux, ils donnaient aux gens, à des ouvriers qui venaient bosser dans le coin, ils leur donnaient le billet de 10 euros, et le mec achetait les canettes devant moi, comme ça. Et moi, je ne gueulais pas après la caissière. Je gueulais après le mec. Je disais, mais toi, tu ferais ça à tes enfants?
Ouais.
Tu leur donnerais de l'alcool? Parce qu'ils vont tourner en place, là, tout à l'heure. Bon, maintenant, j'en reviens sur mon propre... pour vous dire qu'il est
Oui.
très difficile d'intervenir maintenant dans la rue, dans la vie des autres. Moi, j'ai vu un père baffer sa môme devant moi, quitte à... Elle est tombée par terre. On a failli en venir aux mains. Heureusement que j'avais une canne avec moi. Il n'a pas osé me frapper parce que je tiens une canne. Et j'ai les cheveux tout blancs. Mais il m'a dit, ça ne vous regarde pas. Et vous savez, ce n'est pas si facile que ça d'intervenir au niveau éducatif dans la vie des autres. Surtout quand ils sont en difficulté. Alors, bon, bah, moi, après, donc, au bout de ces 20 ans-là, bah, je suis passé à l'alcool festif, bien sûr. Hein, les années 74, 80... Hein, drogue, sexe et rock'n'roll, quoi, comme on dit. Puis pour moi, ça a été un premier divorce dur.
Oui.
Parce que je me suis fait tromper, mais vraiment balader comme une fleur, quoi. Et jusqu'à un jour où je suis rentré trop tôt et j'ai retrouvé un mec dans mon lit, quoi. Et ça, pour ne pas être violent, il faut... J'ai quand même envoyé une armoire envoyée volée.
Ah oui.
Ah oui, ça aurait été du Ikea, c'était pareil. Hein.
Donc c'est pour cette raison que vous disiez en introduction que votre alcool, vous aviez même une tendance à la retourner, enfin les effets retourner contre vous en fait.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Moi, le type, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la fenêtre, j'ai pris toutes ces fringues, ces godasses, son slip, tout ça. J'ai tout balancé par la fenêtre et je lui dis, tu as le droit de prendre la plus petite des serviettes de la salle de bain, de sortir chercher tout. Tu rentres chez toi.
Mmh.
C'était dans un petit patelin dans le Val d'Oise, donc tout le monde se connaissait. Il s'est retrouvé dans la cour, enfin, aller chercher ses fringues à poil. Bon, après, moi, mon alcool festif, je dirais que je suis passé à l'alcool social, et comme je suis dans un monde plutôt intellectuel,
oui.
Le marin-pêcheur, lui, se met en danger physiquement. Hein, si on rentre à moitié bourré sur un bateau, quand on voit les... Moi, j'ai vu des reportages sur les marins-pêcheurs, il ne faut pas se foutre les doigts n'importe où. Hein.
Oui, c'est sûr.
Et ben, dans l'enseignement spécialisé, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment... on est à jeun, on est forcément à jeun toute la journée.
Mmh.
Mais il y a un moment où on décompresse complètement.
Et est-ce que vous aviez, François, le sentiment ou l'impression que vous alliez chercher, voire même provoquer ces moments de communion, justement, puisque vous, c'était finalement, on parle de communion, vous voyez. L'image est intéressante aussi entre votre communion
oui.
et cet alcool mondain. Collectif et est-ce que vous-même parfois vous provoquiez ces moments?
Ah non, moi je bois tout seul.
D'accord.
Moi je vais pas au Trocadéro. Je vais chercher mes canettes au magasin où j'ai allé à l'époque chercher mon whisky au magasin, mais je pouvais boire un litre de whisky par jour.
Oh.
Et le lendemain matin, forcément je m'étais endormi devant la télé. J'ai vu le générique de début, puis mon épouse, elle me mettait le réveil, et puis elle me laissait dans le canapé, et puis hop, elle se couchait. Et puis les deux enfants sont arrivés. Quoi, c'est après les deux enfants que ça s'est mis comme ça, parce que il y a eu, je ne sais pas, qui a enchaîné là aussi, qui jouait l'œuf et la poule. Je ne sais pas si c'est déjà mon alcool ou pas, mais bon, on va dire que nous n'avions plus de rapport physique à partir de l'âge de 3 ans du deuxième enfant.
Oui.
Parce qu'on avait une chambre mitoyenne et la porte fermait mal. C'était un vieil appartement haussmannien. Donc les portes sont gondolées, etc. Et puis le gamin ne voulait pas qu'on éteigne la lumière. Alors pour négocier, on ne fermait pas la porte. Donc ça nous enlevait toute intimité.
Ah oui.
Et puis je crois que mon épouse... alors, je ne sais pas. Est-ce que c'était l'alcool ou pas? Je n'ai jamais su. Bon, c'est désintéressé complètement de ce fait-là. Ce qui fait que moi, dormir dans le canapé ou dormir à côté d'elle, et pour ne pas la réveiller, dormir dans le canapé. Et puis jusqu'au moment où je cachais la bouteille sous le canapé.
D'accord.
Et puis ben, le lendemain matin, je veux dire aussi, il n'y a pas de médecine du travail à l'éducation nationale. J'ai commencé où on avait une radio pulmonaire tous les 2 ans, par exemple. C'était le camion qui arrivait, là tout le monde y passait. J'avais dû connaître ça aussi, ça.
On prenait votre tension et puis merci, au revoir.
Non,
même
on
ne
prenait pas attention, on faisait une radio pulmonaire. C'était un moment où on chassait la tuberculose.
Ah, d'accord.
Tout le monde n'avait pas le BCG encore. Et après, moi, au bout de 5-10 ans dans l'éducation nationale en tant qu'enseignant, parce que j'avais travaillé 10 ans avant dans les bureaux, on va dire qu'à partir des années 75, il n'y a plus de suivi du tout. C'est-à-dire même pas de médecine du travail. On n'était même pas convoqué à la médecine du travail justement pour une prise de tension, voir qu'on avait des problèmes dentaires, peut-être même à la laine, on aurait pu se rendre compte qu'il y avait des gens pas très nets, quoi.
François, je voulais savoir, en vous écoutant comme ça, vous avez également écouté le témoignage de Philippe, notre marin-pêcheur, à quel moment est-ce que vous avez compris, on ne parle pas encore de déclic, ou si, on peut éventuellement, puisque c'est comme ça que Philippe l'a présenté,
oui.
Les deux déclics, le premier c'est « je suis alcoolique », à quel moment pour vous ? Est-ce que vous l'avez vu ?
Moi je ne l'avais pas vu venir, c'est mon médecin généraliste qui m'appelait avant mon prénom, et pour moi je l'appelais tout Bib. Je n'osais pas l'appeler Robert. Et c'est un petit bonhomme qui faisait la fête, lui aussi. Il était tout rondouillard, etc. C'était un peu une caricature au début, parce que son épouse était très, très grande et costaud.
Ah oui.
Et puis lui, c'était un tout petit bonhomme rondouillard qui allait faire la fête à Deauville tous les week-ends, etc.
Ouais.
Et tout ça dans le quartier Gare du Nord, donc dans sa salle d'attente, il y avait tout et n'importe qui. Et il s'étonnait de rien. Mais un jour, quand même, il m'a dit, écoute, Dominique, j'aimerais bien que... Quoi, François? J'aimerais bien que tu ailles faire une prise de sang.
Une prise de sang, oui.
Et il m'a dit, au résultat, pas des globules rouges, beaucoup trop gros.
D'accord.
J'ai fait semblant de ne pas comprendre, parce que
ouais.
Je me doutais bien. De toute façon, c'était déjà à l'époque où je ne pouvais plus me servir dans le bar familial. Quand on reçoit, bon, on peut avoir une bouteille de Porto, une anisette ou un whisky, puis que ça reste là comme ça, puis que les cacahuètes, et que personne ne nous l'apporte jusqu'aux prochains invités.
Ouais.
Et moi, au début, j'ai commencé à boire dans cette bouteille-là. Jusqu'au moment où il fallait que je rattrape le niveau.
Ah oui.
Puis après, j'ai eu ma bouteille. Et comme on était sous 3,20 m sous plafond et que mon épouse n'était pas très grande, j'ai abusé. C'est-à-dire que j'ai pris, vous savez, les petits escabeaux 3 marches
qui sont
en formica, qui font bien du bruit d'ailleurs. Et je croyais que ma femme ne m'entendait pas. Et je montais, et derrière la cocotte minute, la grosse cocotte minute, il y avait ma bouteille de whisky. Je m'envoyais une ou deux lampées.
Ah oui.
Et puis après, pour être sûr, pour ne pas remonter 3 fois, je descendais la bouteille carrément.
Ah oui, d'accord.
Et tout ça, ça s'est fait progressivement. Ça va en dizaines d'années, tout ça. Alors, j'ai fait 7 cures.
7 cures. Donc vous
sept sevrages. Mais à la limite, même quand il parlait de famille, c'est vrai que ça devient une famille. Lui, il avait une famille au bar.
Ouais, c'est
moi,
ça.
J'avais une famille à l'hôpital.
Ah oui.
Je retrouvais les mêmes infirmiers qui étaient presque, je dirais, pas contents de nous voir revenir.
Ouais.
Mais dans un sens... pas content parce qu'on revenait, mais content qu'on leur ait fait confiance et qu'on revienne.
Alors, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Vous en êtes où aujourd'hui ?
J'en suis que je n'arrive pas totalement à arrêter. J'ai un bon traitement pourtant.
Oui.
Et ma seule solution, c'est de faire faire mes courses par quelqu'un d'autre, de ne pas sortir.
D'accord, donc ça, c'est une des solutions qui vous a
Mais
été.
je vis
C'est pas mal.
dans une maison suite à un problème. J'ai été séquestré chez moi pendant 3 mois. Donc, je marche avec une canne maintenant. Tout ça à cause de l'alcool, hein, parce que je me suis fait abuser par 3 jeunes qui n'avaient même pas 60 ans à mon âge. À 3.
Oh là là.
Et puis l'affaire est toujours pas passée en justice, hein. Ça date de 75. De 2015.
Ah oui. D'accord.
Et je suis sous curatelle à la demande de mes enfants. Je ne m'en plains pas.
D'accord.
J'ai eu des bonnes relations avec mes enfants. Je trouve que mon épouse a bien très très bien réagi parce que je n'en veux pas. D'ailleurs, elle m'a soutenu longtemps.
Bon,
maintenant,
c'est une bonne chose.
On a fait le break. Moi, j'ai mis longtemps. Je ne sais même pas encore si je n'ai pas encore des sentiments pour elle. Parce que je la respecte tellement d'avoir fait le bon geste. C'est une mère louve.
François, merci beaucoup pour ce témoignage vraiment poignant. Merci vraiment. Et puis, je vous souhaite de pouvoir vous en sortir, clairement.
Ben, je vous remercie beaucoup, madame. Parce que je voulais dire, bon, alcool n'égale pas violence.
Oui.
Et puis, on
merci.
Peut être marin, pêcheur, prof ou n'importe quoi.
Merci.
Et même nous, à la limite, les intellectuels, surtout des hypersensibles.
On va souhaiter une bonne nuit à nos auditeurs.
Ce qu'on a besoin, c'est du coton, tout donné. C'est
merci
le coton qu'on cherche.
Beaucoup. Et ouais. À ce soir.